le traité civique qui révèle, selon ce que j'ai pu capter, une dimension de lui qui est sans doute présente un peu dans tout ce qu'il a fait et écrit, mais spécialement dans ce livre ou ce traité. De quoi s'agit-il, ma chère Nicole Berthold, qui est assise sur mon canapé en face de moi?
Merci Yorin de me poser cette question. Je suis très contente de partager cela avec toi parce que je crois que c'est un petit événement dans l'œuvre littéraire de Boris Vian, une facette encore une fois qu'on aura à découvrir de cet homme qui, à un moment donné, s'est vraiment penché sur les problèmes de notre société. Ça arrive au moment où il a 30 ans, la vie de Saint-Germain-des-Prés est derrière lui. Il se sépare de sa femme à ce moment-là. Il a beaucoup de déceptions au niveau de son œuvre, on va dire, de ses écrits, puisque peu de choses sont publiées et peu de choses ont de succès ou sont reconnues. Donc, comme un moteur intérieur qui l'anime constamment pour vivre et survivre, il a cette ressource de se poser des questions en tant qu'ingénieur aussi, puisque c'est sa formation, sur quel est le devenir du monde, parce que finalement, c'est aussi se poser la question quel est son propre devenir, comment lui-même s'inscrit dans cette société. Donc, il a envie de poser des bases, et des bases politiques, parce que c'est important dans ces années 50, où il y a encore la 4e République, où l'après-guerre se fait encore sentir, où la France se reconstruit, tout comme bien sûr l'Allemagne, où beaucoup de gens souffrent encore, souffrent économiquement. N'oublions pas que l'appel de l'abbé Pierre date de 1953, où
C'est
il y
vrai,
a
hein?
des millions de gens dehors. Mes propres parents en ont fait partie. Donc, il s'agit quand même d'une France qui souffre. Boris Vian lui-même a très peu de moyens. Il va avoir la chance de trouver un travail, mais c'est important justement de remettre ce contexte qu'on a tendance un peu à oublier. Aujourd'hui, on va se référer assez rapidement, parce que le temps a passé, sur les années 68. Et puis, souvent, on fait référence à la libération, mais enfin, on oublie justement ce 45-55 qui est finalement assez douloureux, où la France se cherche aussi. Il y a l'appui des Américains qui va justement amener beaucoup de changements économiques. Mais Vian, qui est quand même quelqu'un qui a une culture à tous les niveaux, sent bien ce vers quoi ça va nous amener, même s'il aime bien l'Amérique pour certaines choses, mais pour d'autres, il sent bien qu'il y a des pièges. Donc, comme c'est quelqu'un qui ne critique pas, comme c'est quelqu'un qui n'analyse pas, c'est quelqu'un qui va plutôt mettre des bases sur une sorte d'un devenir de la société qu'il va traiter sous deux aspects essentiels pour lui. Humain, en tant qu'humaniste, et scientifique, de par sa formation d'ingénieur, où on peut imaginer qu'il y ait un autre monde matériel qui nous serve et qui serve l'humain. Il y a aussi pour lui une façon de se positionner avec ce qu'il va nous offrir dans ses écrits, qu'ils vont rester comme un document malheureusement inachevé, mais quand même très construit et assez abouti. Il va nous dire aussi par là ce qu'il ne veut pas. Mais il ne va pas s'étendre sur la question. Il va nous dire que la politique n'a pas de place sur le devenir de l'homme et que, bien entendu, le terrain économique qui blesse l'homme et qui l'avilit, donc par le travail et la guerre, n'a surtout, bien sûr, pas de place et même va anéantir l'homme si on continue comme ça. Vous voyez cet homme qui est vraiment aux prémices de la reconstruction d'une France qui va devenir très technologique et très avancé. Hein. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu différent. Lui a déjà dépassé cette voie-là, comme s'il sait que déjà, ce n'est pas la bonne voie. Et pourtant, il la voit tracée.
C'est extraordinaire.
Donc, c'est très, très intéressant. Donc, son esprit pataphysique va aussi développer, bien entendu, des choses assez fantaisistes. On reste avec des écrits qui sont hautement vianesque, parfois très drôle, avec des aphorismes, avec des petites phrases qu'il note comme ça dans tous les sens, et qui ressemblent vraiment bien à cet auteur qui, de temps en temps, ne prend strictement rien au sérieux, et il a bien raison, me semble-t-il. Alors, je peux dire la chose suivante. Cet écrit a été retrouvé par Ursule Avian dans des chemises différentes.
Donc, il ne savait pas que ça existait.
Pas vraiment. Pas vraiment. Elle ne savait pas. Elle était toujours très en retrait avec ce que Boris écrivait ou ce sur quoi il travaillait. Elle était suffisamment occupée avec sa danse, son théâtre, pour ne pas mettre le nez dans ses écrits. Et puis, il faut dire et reconnaître qu'elle ne lisait pas un français très, très naturellement. Pas complètement. Et puis, de toute façon, Boris ne partageait pas exactement ça avec elle. Mais, néanmoins, sur ce chapitre du traité de civisme, qui aurait pu aussi s'appeler traité orbital ou traité de l'économie heureuse, il a changé de titre plusieurs fois, Ursula retrouve ce document, donc écrit dans des chemises, plus ou moins classé quand même par Boris. Elle va le confier, dans les années 70, à un universitaire qui va lui, carrément, avec son accord, en faire sa thèse pour passer un diplôme de professeur d'études littéraires modernes en présentant cet inédit de Boris Vian, ce qui à l'époque a été vraiment merveilleux, mais qui a été très mal reçu. Parce que Boris Vian, dans les années 70, reste quand même toujours quelqu'un, un, de sulfureux, deux, de pas très sérieux, au sens vraiment primaire du terme.
Oui, même si un peu rigolo à la fin. Mais...
Voilà. Alors que finalement, lorsqu'on décode tout ça, il y a des choses très intéressantes. Parce que je tiens à dire le fondement de cette volonté de Boris Vian d'exprimer quelque chose, c'était à double titre. C'était d'abord pour trouver pour lui-même une voie du futur, parce qu'il se sentait menacé extérieurement et intérieurement, donc il cherche, mais aussi parce qu'il a envie de renouer peut-être avec certains de ses pères. Il a envie de renouer avec Sartre et Camus, avec Merleau-Ponty, en premier lieu. Avec Simone de Beauvoir, peut-être. Mais il n'en a sans doute pas eu assez le temps. Mais il va l'interviewer, il va aller la voir, ils vont se rencontrer. Il va relire tout Sartre. Il va se réapprocher de Genet, de Bataille. Il va relire de la poésie. Lorca, Garcia Lorca. Il va relire Baudelaire et Rimbaud, surtout Baudelaire. Il va revisiter, et là, il y a Ursula qui apparaît, il va revisiter tous les philosophes allemands, beaucoup de philosophes allemands, avec notamment Kierkegaard, Schopenhauer, etc. Il va revenir sur tout ça pour se donner vraiment la possibilité de réinvestir ce terrain qu'il n'a pas trop voulu connaître à l'époque, quand il était plus jeune homme, etc. D'abord parce qu'il a une grande maturité en lui, qui lui permet de lire très aisément tout ça. Et puis il sent bien que c'est une base, que c'est important, qu'il a sans doute des choses à en dire. Alors il lit et il note beaucoup de choses. Donc dans ses écrits, il y a une part qui sont ses propres écrits et une part qui sont ses notes. Lorsque la thèse est parue dans les années 70, elle se partageait en trois grands thèmes. Elle se partageait avec le corpus du texte de Boris Vian, avec toutes ses annotations et ses notes extérieures, et avec ce que Guy Laforêt, cet élève, cet étudiant, a bien sûr lui-même analysé et conceptualisé. Pour ma part, j'aime beaucoup ses écrits parce que je les décode bien dans tout son jeu du langage et aussi dans son aspect sérieux, mais avec beaucoup de distance. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très bien si on peut proposer quelque chose à notre société. C'est très important. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'être très bien reçue dans cet esprit-là par la directrice du Livre de Poche, l'ancienne directrice du Livre de Poche, Cécile Boyer-Ringe, qui a accepté que je reprenne complètement le volume et comme nous détenons toujours le manuscrit, que je puisse travailler et faire une proposition. Depuis, elle est allée travailler dans une autre maison d'édition, mais elle a demandé à la nouvelle directrice de reprendre quand même ce sujet, ce que nous avons fait ensemble. Et donc, je lui ai proposé de garder essentiellement le corpus des écrits de Boris Vian et de le redispatcher d'une façon beaucoup plus claire et lumineuse, tel que Boris Vian l'aurait sans doute proposé si ses documents avaient été plus aboutis, et dans quelque chose d'assez ludique. Voilà. Ce qui nous permet de proposer un ouvrage de 180 pages avec quelques documents aussi illustrés, parce qu'il y a des choses très drôles dans les manuscrits, voilà, qui sont toujours un petit peu très graphiques, comme il sait faire, ou quand il cherche, etc. Ou il quand donne... il était au téléphone, ouais, pendant qu'il continue d'écrire.
Il donne la présence, l'esprit.
Voilà, c'est très important pour le lecteur, oui, absolument. Oui, oui, de comprendre ça, que ce ne soit pas simplement que quelque chose qu'on envoie comme ça, et qui soit surtout très intellectuel, parce que Boris Vian n'a surtout pas envie d'envoyer ce message-là. Il dit toujours qu'il veut être compris par le plus grand nombre. Donc j'ai fait en sorte que tout ce qu'il y avait d'un peu compliqué ou qui faisait référence aux philosophes, qui pouvait être tout de suite beaucoup plus difficile à capter, j'ai tout de suite enlevé, etc. Donc je me suis permis, avec l'accord de Patrick Vian, donc avec l'accord du fils de Boris Vian, de vraiment mettre quelque chose au service, voilà, de notre temps et des habitants qui sont là sur notre terre, comme le dit lui-même Boris Vian, et sur de donner quelque chose aux terrestres. Il y a quelque chose d'ailleurs qui s'appelle, il y a un texte qui s'appelle comme ça, je veux dire, où c'est plan pour les terrestres. Et du reste, il fait appel plus tard au gros problème de la démographie. Il y a tout un texte là-dessus sur le nombre d'habitants, puisque au moment où Boris Vian écrit cela, nous sommes 2,5 milliards d'habitants. C'est intéressant d'ailleurs. Mais pour lui, déjà, ça le préoccupe et l'occupe beaucoup. D'où, pour lui, une société beaucoup plus écologique, et Vian l'était déjà beaucoup lui-même, il faisait le tri chez lui, par exemple. Et puis aussi, la possibilité d'aménager un Paris beaucoup plus écologique en mettant des terrasses aménagées ou en mettant, et bien sûr, les voitures, en les faisant rentrer dans les villes d'une certaine façon, etc. Il trouvait aussi que les voitures pouvaient être suffisamment jolies pour un jour devenir des objets qu'on puisse mettre dans notre salon, pour décorer notre salon. Enfin, des idées complètement extraordinaires, mais qui nous font du bien à l'âme. Voilà.
En fait, on ne peut pas résumer un livre du tout, ce n'est pas ce que je vais te demander, mais juste pour donner une... Tu as déjà donné quelques idées un peu vraiment spéciales, extraordinaires, farfelues, on dirait, ou de nouveau, on pourrait dire, oui, bon... C'est très joli, c'est très poétique, mais bon, et qu'est-ce que j'en fais, à part que ça me rafraîchit un peu la tête. Mais si on avait envie justement de proposer ça à des jeunes aujourd'hui, qui ont vraiment soif de trouver des chemins qu'ils ne connaissent pas encore, mm-hmm. Comment tu les inviterais à lire ce livre ? Ou pourquoi ?
Oui, eh bien écoute, je suis contente que tu me poses cette question parce que je crois qu'il y a un lien d'abord direct avec L'écume des jours. Comme L'écume des jours est publié notamment en Allemagne depuis fort longtemps, est un livre qui a véhiculé beaucoup de choses et qui a toujours beaucoup plu, et maintenant on le sait depuis 60 ans, et qui continue de séduire les jeunes générations, je dirais que dans cette Écume des jours, Boris Vian aborde déjà les grands fondements de notre société qui nous occupent, qui sont là dans tous les arts, d'ailleurs, dans l'opéra, dans la littérature, bien sûr, et dans la peinture, etc. Ils sont la mort, la vie, et l'aboutissement de soi-même, tous ces grands thèmes très importants, et notamment aussi le travail, la guerre, mais notamment dans la mort de Chloé, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais il y a une phrase qui est vraiment comme une clé, qui est vraiment une clé qui permet d'ouvrir et l'écume des jours. Et si je parle de cette clé, de cette phrase, c'est parce que c'est une phrase qu'il a reprise dans le traité de civisme et qui nous donne vraiment un passage intéressant. Dans l'écume des jours, il dit, à un moment donné, il fait dire à Colin, qui est le personnage central, qui est donc le compagnon de Chloé, le plus important, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est le bonheur de chacun. Comme si chacun devait trouver sa petite clé en soi et trouver la possibilité de se réaliser, de s'épanouir et d'aller vers son vrai moi pour à ce moment-là être vers les autres aussi, être au mieux avec soi-même pour être au mieux avec les autres. Ça, Boris Vian l'appliquait à la lettre pour lui-même et sa famille l'a toujours appliqué. Et j'en veux pour preuve que cette phrase, il l'a mis dans plusieurs modes différents, mais on la retrouve deux ou trois fois dans le traité de civisme, il y revient, pour dire, mes amis, n'allez pas chercher des grandes choses vers les autres et de réunir tout le monde sous le même mode à travers telle ou telle chose. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça qu'il veut dire. Mais trouvez la force en vous, trouvez la lecture en vous pour être vraiment au maximum de vos capacités et à ce moment-là, il y a des voies qui vont s'ouvrir. Alors ça, c'est une première clé. Et il y en a une deuxième qui est la technologie. Et là, je crois qu'on y est. Et pour les jeunes, ça peut vraiment leur parler. Ne vous embarrassez pas avec toutes ces machines. Ne vous embarrassez pas avec toutes ces choses qui nous font des milliers de contraintes sur le dos dans nos villes. Lâchez ça. Faites confiance à la technologie. Employez des robots et faites faire aux autres. Et reposez-vous sur ces machines qui ne feront que nous aider. Et n'ayez pas peur de prendre ce chemin. C'est un chemin, ma foi, banal. Et aujourd'hui, je vois que dans les années 2000, depuis des années, ça me fait rire parce que on entend des tas de conversations à la radio, à la télé, on lit des articles sur le concept du robot, sur l'éthique, le robot va prendre notre place, etc. Ouais. Boris Vian n'avait aucunement peur et il a écrit un article qu'on peut lire dans le traité de civisme, « Les robots ne nous font pas peur ». Parce que le robot est simplement là pour se substituer à nous et pour nous aider à nous rendre la vie plus facile, pour qu'on puisse rêver, pour qu'on puisse faire de la poésie, pour qu'on puisse créer. Voilà.
En fait, pour la libération de l'être humain.
Tout à fait.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu cette perspective-là qui intéresse Boris Vian ?
Absolument. C'est pour ça que Boris Vian, quand il dit qu'il est anarcho-aristocrate ou qu'il est aristo-anarchiste, il a bien compris qu'on se libère soit par le biais, malheureusement, de l'argent, soit on se libère autrement, c'est-à-dire en se libérant de tout pour vivre son être profond. Donc oui, on va vers une sorte de libération. Donc je crois que c'est deux choses qui sont là, omniprésentes dans ses écrits. Alors un petit peu, bien sûr, pas désordonné, mais non abouti, certes, mais c'est quand même la base de cet écrit. Et ça, je trouve que en pouvant travailler sur ce texte, en ayant la possibilité d'être publié dans le livre de poche, donc dans une collection populaire, peu chère, très accessible, c'est un immense cadeau pour moi qui travaille depuis 39 ans au service de la famille. C'est une sorte de consécration pour moi.
Alors je te remercie beaucoup, beaucoup, Nicole. Dès que ça serait, je veux dire, disponible, je vais me précipiter sur le livre. Et puis, quand est-ce qu'il y a éventuellement une édition en allemand ? Est-ce qu'il y a des projets déjà de fait dans cette direction ? Ça comme dernière question, parce que c'est important
bien
pour
sûr, bien sûr.
Ceux qui nous écoutent ou pour lesquels je vais traduire ce que tu viens de dire.
Alors, vraiment, merci de m'inviter pour pouvoir parler de ce projet littéraire, bien sûr. Et j'ose espérer que ce livre plaira à un éditeur allemand. Nous avons l'habitude de travailler avec certains éditeurs, mais nous sommes toujours très ouverts à toute proposition parce que c'est un livre un petit peu particulier. Et donc, pourquoi pas, voilà, quelqu'un qui nous écoute aura l'envie voilà, de nous tendre la main et puis qu'on puisse tisser encore un lien entre la France et l'Allemagne à travers cet écrit de Boris Vian qui aimait beaucoup cette langue, je tiens à le dire, puisque Boris Vian parlait couramment allemand.